Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'actualité nationale et internationale traitée avec rigueur, indépendance et professionnalisme. Bienvenue dans votre journal sur Radio Kapi, la radio de la paix. Il est présenté par Gisèle Cage. Réponse sanitaire en Ituri, des mesures renforcées avec l'appui de la MONUSCO, l'hôpital général de Bounia améliore la prévention de risques de contamination en milieu hospitalier. Maniema, week-end sanglant à Lubutu, violents combats, pertes humaines, l'heure est au retour au calme et aux appels à l'ordre. À suivre dans ce journal, un entretien exclusif, le coordonnateur provincial du programme Star RDC répond aux questions de Jean-Claude Lokidile. Bilan, impact et perspectives pour les communautés. Bounia, des moyens renforcés pour protéger les soignants. Face à une épidémie qui met le système de santé sous pression, chaque geste compte et celui de ce dimanche pourrait faire la différence. L'hôpital général de référence de Bounia a reçu un important lot de matériel et d'équipements de protection pour faire face à la menace qui sévit depuis plusieurs semaines en Ituri. Un appui signé MONUSCO avec le casquet bleu bangladais en première ligne. Dont le carton désinfectant, gants, blouses, savon liquide, gel hydroalcoolique, de quoi renforcer la riposte et mieux protéger ceux qui sauvent des vies au quotidien. La remise officielle s'est tenue ce dimanche en présence du directeur de l'hôpital, le docteur John Katabuka. Pour lui, cet appui arrive à un moment crucial. Il permettra de réduire sensiblement le risque de contamination en milieu hospitalier. Mais le combat est loin d'être gagné. Le docteur Katabuka appelle à une mobilisation plus large, nationale et internationale face à une épidémie déjà meurtrière. On l'écoute au micro de Martial Kizabiamongo.
Cette assistance sera très importante tout simplement parce que vous savez, à chaque fois que le personnel soignant qui doivent recevoir les cas suspects de la maladie à virus Ebola, c'est désormais, ils vont déjà avoir aussi des équipements de protection individuelle. Au niveau de l'hôpital, pas seulement dans les centres de traitement, mais aussi dès la réception, ils auront déjà des équipements de protection individuelle. Parce que vous savez, l'épidémie nous a surpris alors qu'on ne s'attendait pas. Le premier personnel qui avait touché aux malades ne savait pas que c'était des cas d'une épidémie. Et puis, l'ici était, vous aviez vu des médecins mourir, des personnels être malades. Donc, c'était ça. Alors, avec ça, cela pourrait déjà contribuer à lutter contre cette maladie, mais aussi à prendre bien en charge les patients, mais aussi et surtout à protéger les personnels soignants qui sont de la première ligne.
Après Bounia, où l'hôpital général vient d'être renforcé, la riposte s'organise aussi au cœur des communautés, direction Beni dans le Nord Kivu. Ici, les églises montent en première ligne contre Ebola. Devant plusieurs lieux des cultes, les dispositifs de lavage de mains se multiplient. À l'entrée, contrôle systématique des températures, les thermoflashes sont devenus incontournables. Et pour limiter le risque, les habitudes changent. Certaines paroisses adaptent leurs horaires, multiplient le culte. D'autres font le choix du plein air pour réduire le contact et protéger les fidèles. Mais derrière cette mobilisation, l'inquiétude demeure. Le responsable religieux tire la sonnette d'alarme. Il dénonce un manque d'appui des autorités, notamment en matière de prévention et en renforcement de la sensibilisation. Reportage signé Marc Marofimbo.
Devant l'église catholique centrale de la ville de Beni, par exemple, la rigueur est de mise. Pas d'accès aux lieux de culte sans lavage des mains et les poignées des mains sont strictement interdites. À Madrandele, dans la communauté adventiste, les mesures de riposte sont également appliquées avec fermeté. Ici, les diacres sont postés à l'entrée de la cour, munis de thermoflash pour la prise de température, juste à proximité des dispositifs de lavage de mains. À l'intérieur de l'église, des bandes isolantes sont fixées sur les bancs afin de garantir le respect de la distanciation physique. Pour les chargés de développement de cette communauté, le niveau d'alerte est rester élevé. Jacques Mieri.
Nous sommes vraiment en alerte parce que nous avons déjà mis au point une équipe de riposte. Nous avons le lavabo, nous avons le thermoflash, le respect des mesures barrières au sein de notre congrégation et la sensibilisation de nos membres quant à ces pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Nous recevons chaque sabbat plus de 700 personnes et pour le moment, nous avons divisé le nombre par deux et les autres sont éparpillés dans la cour pour respecter d'abord cette distanciation de 1 mètre pour éviter les contacts.
Devant les mosquées de la ville, tout comme d'autres églises protestantes et des réveils, les responsables veillent scrupuleusement au respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans la ville. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Changement d'ambiance dans la capitale. La saison sèche s'installe et avec elle, ses effets bien visibles. Dans l'air, la poussière s'invite, les nuits rafraîchissent et les consultations médicales, elles, se multiplient. Grippe, bronchite, pneumonie, crise d'asthme, les maladies respiratoires repartent à la hausse, touchant de nombreuses familles, surtout les enfants et les personnes âgées. Une situation qui inquiète et appelle à la vigilance. Les médecins insistent, adopter le bon geste peut faire la différence pendant cette période à risque. Quels réflexes adopter? Quels sont les signes qui doivent alerter? Le docteur Clarisse Kapinga fait le point et lance un appel à réagir à temps. Et l'automicro de Christian Makasinga.
La saison sèche est particulièrement marquée par la baisse des températures, surtout la nuit. Ceci favorise la propagation des maladies. Telles que la grippe, les bronchites et autres pneumonies sont souvent liées à l'inhalation de la poussière. Les crises d'asthme qui deviennent plus fréquentes, les amygdalites qui sont très récurrentes chez les enfants. Pour éviter la survenue de ces maladies, il est recommandé d'opter pour l'habillement qui recouvre les extrémités du corps, c'est-à-dire tête, mains et pieds, de boire régulièrement de l'eau, 2 litres en moyenne par jour, consommer des fruits et légumes pour renforcer l'immunité et surtout de porter le masque pour éviter l'inhalation de la poussière. Privilégier les nourritures et les boissons chaudes. Nous conseillons de consulter les médecins lorsque vous avez une toux allant au-delà des 10 jours, une difficulté à respirer ou une respiration sifflante, une douleur dans la poitrine, une soif intense, une sécheresse de la bouche et de la langue, des urines rares très foncées et surtout une fièvre supérieure ou égale à 39 degrés Celsius, surtout chez l'enfant.
Cap maintenant sur la province du Maniema. L'Ubuntu sort à peine d'un week-end d'horreur. Des tirs, la panique, un lourd bilan humain. Au moins 6 morts, plusieurs blessés et des familles entières contraintes de fuir dans la précipitation. En cause, des affrontements violents entre le Wazalendo du général autoproclamé Alphani Bukuyu et les FARDC. Selon les premières informations, une incursion armée a visé un dépôt d'armes dans la commune. Tentative qui échoue avant de tirs nourris à incontrôlés, plongeant la ville dans le chaos. Ce lundi matin, un calme précaire est revenu, mais la tension reste vive. Sur place, les habitants réclament des réponses et surtout le retour de l'autorité de l'État. Les autorités, elles, se veulent rassurantes et évoquent un retour progressif à la normale malgré les blessures encore ouvertes. Reportage de Florence Kizalunga.
Cette nouvelle attaque crée la désolation au sein de la population, particulièrement en cette période où les enfants se préparent à passer les examens d'ITENA suspect. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani, souligne l'engagement du gouvernement provincial à rétablir l'ordre et à renforcer la sécurité dans la région.
Déjà, les enfants sont en train de se préparer pour passer l'examen d'ITENA suspect. Mais le monsieur Bukuyu, toujours lui qui crée trop de problèmes, nous appelons la population au calme. Et les enfants à se préparer, nous sommes déjà en train de prendre contact avec les autorités de l'éducation pour que les enfants puissent passer cet examen en toute quiétude.
De son côté, le député national honoraire de l'Ubuntu, Stanislas Oleko, recommande la descente sur terrain des autorités nationales et provinciales pour régler cette question.
Actuellement, que les élus, tant au niveau national que provincial, se rendent à l'Ubuntu afin de parler avec M. Bukuyu. Parce que ces élus ont le mandat de la population de l'Ubuntu, laquelle population est en train de souffrir dans la forêt, sous les intempéries, sans aucune assistance. Et il y a mort d'hommes et des blessés.
Les appels se multiplient pour que les autorités nationales s'impliquent davantage dans la résolution de la problématique des Wazalendo dans cette province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction le Tanganyika où une autre histoire s'inscrit, celle du retour. Des centaines de Congolais rentrent progressivement au pays après des années d'exil en Zambie. Plus de 500 réfugiés du camp des Matampala ont été rapatriés via le territoire de Pweto. Le dernier convoi est arrivé ce vendredi selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un retour encadré volontaire qui s'inscrit dans un programme de rapatriement sécurisé, confirme la chef de la sous-délégation du HCR dans le Grand Katanga. Entre espoir, défi et réinstallation, le point complet avec Paulin Munanga.
Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais qui vivaient en Zambie est un processus qui a débuté en mai dernier, souligne le HCR. Le premier convoi est arrivé dans un centre de transit en territoire de Pweto le 21 mai, le deuxième le 27 mai et le troisième convoi de réfugiés en provenance de la Zambie est arrivé en RDC ce vendredi 5 juin. Au total, 184 ménages constitués de plus de 500 personnes sont déjà rapatriés et le processus se poursuit, annonce le HCR. La chef de la sous-délégation du HCR dans les Grands Katanga explique la procédure une fois qu'un réfugié est accueilli au centre de transit de Pweto. Cathy Daniel Moni.
Tous arrivent par Pweto, ils sont accueillis, ils sont logés au centre de transit, au village Santé, à 7 km de la frontière Lukinda à Pweto, en attendant de recevoir leur kit, leur assistance, ce qu'on appelle le paquet retour, selon la modalité CBI, qui est payée par la TNB. Une fois qu'ils reçoivent l'argent, ils sont raccompagnés dans leur zone d'origine.
Cathy Daniel Moni ajoute que la plupart de ces réfugiés sont ceux qui ont fui les exactions des miliciens Bakata Katanga en 2017 dans diverses contrées du Grand Katanga. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Sur fond de débats brûlants autour de la réforme constitutionnelle, une nouvelle prise de position fait réagir celle de l'Église du Christ au Congo. L'ECC estime que toute initiative de révision constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement s'inscrire dans un dialogue national inclusif et apaisé. Une position exprimée lors de sa 66e session extraordinaire tenue le 7 juin à Kinshasa. Dans la même logique, l'Église appelle les acteurs politiques à privilégier un dialogue démocratique national et ouvert pour aborder les grandes questions institutionnelles qui divisent aujourd'hui l'opinion. On écoute un extrait de la déclaration lue par le pasteur Dominique Mukanya, secrétaire rapporteur du comité exécutif national de l'ECC. Un extrait proposé par Alain Irung.
L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha.
Le pasteur Dominique Mukanya, secrétaire rapporteur du comité exécutif national de l'ECC. Direction Mbujimayi, où un phénomène en pleine expansion ne passe plus inaperçu. Les longs des principales avenues, des jeunes garçons s'improvisent laveurs des véhicules armés, des machines à haute pression. Une activité qui déborde désormais largement des stations de lavage traditionnelles et gagne du terrain à grande vitesse. Entre esprit des débrouillardises, manque d'encadrement ou simple effet de mode, cette pratique suscite de nombreuses réactions dans la capitale du Kasaï oriental. Que se cache-t-il derrière cette émergence soudaine? Reportage d'Esther Ndalafina.
Sur l'avenue Cathédrale, à quelques mètres du rond-point de l'Indépendance, des jets d'office, des chiffons s'agitent et des jeunes s'affairent autour des voitures. Ils sont parfois deux ou trois, chacun avec un rôle précis. L'un pulvérise, l'autre frotte, un troisième essuie. Des machines à pression flambant neuve, des seaux, des savons industriels. Adolphe Kabotela affirme avoir trouvé là un moyen rapide de payer ses études.
Ça, c'est mon propre travail, mon propre business. Pas trouver un bon travail, au lieu de voler, je choisis ça.
Les motocyclistes et les propriétaires de véhicules profitent désormais de la multiplication des points de lavage car les prix y sont devenus plus négociables qu'à l'époque où la ville n'en comptait qu'une poignée limitée à 5 sites. Jean Bouilly, trouvé sur place, s'est réjoui.
Nous sommes contents du travail effectué parce qu'ils le font bien. Ça nous permet d'utiliser les engins propres.
Derrière cette débrouillardise, plusieurs questions émergent, dont notamment l'occupation anarchique de l'espace public, la dégradation possible des routes récemment asphaltées, comme l'indique ici Joseph Kanyana.
Avec les savons qu'ils utilisent au moins, d'un moment à l'autre, ça va abîmer la route.
Certains observateurs appellent sans doute à une régularisation pour préserver à la fois l'espace public et la sécurité des usagers. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Selembao, ici à Kinshasa, la saleté prend ses quartiers et les habitants n'en peuvent plus. Sur l'avenue Révolution au quartier Louboudi, un caniveau est aujourd'hui totalement englouti sous des montagnes d'immondices qui s'étendent jusqu'à la rivière Makelele. Chaque nuit, dénoncent les riverains, les déchets seraient déversés par certains vendeurs du marché de Selembao. Conséquence immédiate, des odeurs insupportables, une prolifération des moustiques et une hausse inquiétante des maladies, sans compter le risque d'inondation qui menace désormais tout le quartier. Excédé, les habitants lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention urgente. Les détails dans ce reportage signé Ella Chimbalou.
Les caniveaux de l'avenue Révolution est complètement bouché par des déchets qui s'accumulent sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à la rivière Makelele. Les riverains assistent impuissants à cette situation.
À l'origine, ce sont les vendeurs du marché Selembao qui déposent les déchets. Nous avons essayé de nettoyer nous-mêmes car les immondices sont trop nombreux et très compactés.
Dans ces coins de la capitale, les riverains vivent au quotidien avec des odeurs désagréables, des moustiques et des maladies fréquentes comme le paludisme et la fièvre typhoïde.
Nous souffrons constamment des maladies. Regardez-moi, je viens à peine de terminer un traitement et la maladie est déjà revenue. Comment vous voulez qu'on puisse guérir dans un environnement où règne une mauvaise odeur et insalubrité?
Les habitants appellent aux autorités compétentes à assainir la zone, tout en insistant sur la responsabilité de chacun dans la gestion des déchets.
Dans un environnement où règne une mauvaise odeur et insalubrité, chacun doit nettoyer devant sa parcelle. On ne peut pas attendre les autorités alors que certains jettent et même des déchets ici. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Au-delà de l'insalubrité, c'est surtout la santé des riverains qui reste la principale préoccupation dans cette zone de la capitale congolaise.
Actualité internationale.
Moyen-Orient, le rebelle Houthis du Yémen revendique une attaque des missiles contre Israël lancée ce lundi et annonce dans la foulée interdire la navigation des navires israéliens en mer Rouge. Dans un communiqué, ce mouvement donc allié de l'Iran affirme avoir ciblé des sites sensibles israéliens. Il provient également que tout navire lié à Israël sera désormais considéré comme une cible militaire dans cette zone stratégique. De son côté, l'armée israélienne confirme avoir détecté un tir de missile en provenance du Yémen ce lundi. Engagés dans le conflit depuis le 28 mars dernier aux côtés de Téhéran, les Houthis ont multiplié les attaques ces dernières semaines visant à la fois Israël et le trafic maritime en mer Rouge au nom de leur soutien à la population palestinienne.
L'invité.
Des milliers d'emplois créés, des routes réhabilitées et des infrastructures reconstruites, le programme Star RDC affiche des résultats concrets sur le terrain. Plus de 2700 emplois temporaires, 18 infrastructures réalisées ou remises à neuf et plusieurs axes routiers réhabilités dans des zones longtemps marquées par les conflits. C'est le bilan des exercices 2024-2025 à mi-parcours de 2026 où en est-on réellement? Quel impact pour les communautés bénéficiaires et quels sont les prochains chantiers à venir, notamment à Mahagui, où de nouveaux travaux routiers sont annoncés? Réponse avec le coordonnateur provincial du programme Star RDC dans un entretien exclusif accordé à Radio Capi. Il est interrogé par Jean-Claude Lokidile.
Steve Senguida, bonjour.
Oui, bonjour.
Première question, quel bilan faites-vous de vos activités menées au cours de ces 5 premiers mois donc de l'année en cours?
Effectivement, le projet est en plein essor en province de Litchouri. Nous avons depuis 2 ans déployé plusieurs activités en faveur des communautés vulnérables, mais aussi nous accompagnons le gouvernement provincial dans son élan vers la stabilisation de notre province qui fait face aux conséquences des conflits armés qui non seulement ont endeuillé nos entités, mais aussi réduit en néant le potentiel économique de nos populations.
Quelles ont été les principales réalisations enregistrées durant cette période?
En fait, à ce jour, nous avons, de manière générale, nous avons développé plusieurs projets d'infrastructures, notamment la vague des 18 premières infrastructures, dont 14 écoles et 4 centres de santé, qui ont été construits et équipés et livrés aux communautés en territoire d'Irumu et d'Indjougou pour l'exercice 2024, dont les travaux ont pris fin en
2024.
Ça, c'était pour 2024.
Ah, d'accord.
Les travaux ont pris fin en 2025 et nous avons livré ces écoles, ces centres de santé aux communautés bénéficiaires et qui sont déjà en cours d'usage. Nous avons également en même temps lancé et clôturé les travaux de réhabilitation des 2 axes routiers importants des dessertes agricoles. L'axe allant de Kombokabo à Tchekele, à territoire d'Irumu, et l'axe allant de Soleniama à Largou, en territoire d'Indjougou, où plus ou moins 2700 travailleurs ont bénéficié des emplois directs et temporaires pour 100 jours, lesquels emplois ont non seulement permis à ces communautés de reprendre l'élan de cohésion là où la rupture y avait, mais aussi de bénéficier de revenus qui leur ont permis d'améliorer, de relever leur niveau de vie, étant donné que ces emplois ont été payés en faveur de bénéficiaires directs. Deuxièmement, ces activités de Timo que nous avons faites ont réduit sensiblement les taux de criminalité. Aujourd'hui, sur l'axe Soleniama, Baranganza jusqu'à Largou, les rapports à notre possession font état d'une baisse presque à 90% des taux de criminalité. Aujourd'hui, les taxis-voitures font Largou-Bounia, amenant les passagers et les marchandises. Bref, nous essayons de désenclaver et d'améliorer le vivre ensemble, surtout que cette zone a souffert des ruptures de cohésion.
C'est pour combien de temps? Vous savez, la situation de Litchouri, elle est toujours précaire, fragile. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ces projets puissent durer dans le temps? Steve Senguida.
Nous n'avons pas fait des communautés de simples bénéficiaires, mais nous avons fait d'elles des acteurs ou des actrices de leur développement. Ils ont été au centre de toutes les actions que nous avons menées et ils en ont tiré les dividendes.
Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'en les responsabilisant pour des questions liées à leur bien-être, ils se sont sentis valorisés et ont compris la nuance qu'il y a entre le développement, donc la paix et le développement, et les chaos dans lesquels ils vivaient. Aujourd'hui, à Lita, les gens vous demandent les structures sanitaires parce qu'ils n'en ont plus. Ils ont été détruits complètement. Aujourd'hui, ils comprennent que pour un mal des dents, il faut aller à Baranganza et avoir les autres communautés se développer, avoir les autres territoires se développer. Ils en ont tiré les leçons et se sont engagés résolument sur la voie de la pérennisation des acquis de la paix que le gouvernement et ses partenaires sont en train d'implémenter.
Steve, vous parlez de la pérennisation, comme vous le savez si bien, il y a encore des armées qui circulent là-bas. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça va nous garantir que ces projets vous dureront dans le temps?
Cela fera bientôt 3 ans que nous sommes dans la région. Nous avons réalisé des grands projets sans incident. Nous avons développé des activités intenses dans des zones jadis inaccessibles, dont les autorités administratives ne pouvaient pas mettre le pied à Bounia parce que leur statut leur posait problème. Mais aujourd'hui, ils sont en mesure de venir rencontrer le gouverneur et à ce titre, ils ont ouvert leurs entités aux opportunités de développement en faveur de leurs enfants, de leurs épouses et de leur devenir. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans des zones comme Awalindu, Piti. Nous avons réalisé des ouvrages sans incident et aujourd'hui, 2 ans après la mise en œuvre de la première phase, nous sommes fiers d'annoncer que ces communautés ne sont pas forcément celles que nous avons comme impression ici ou la perception que nous avons d'elles. Parce qu'en les rapprochant, nous avons découvert que c'était des gens qui étaient disposés à changer des camps. Et aujourd'hui, 2 ans après, nous annonçons que l'expérience Star RDC a essayé d'apporter une nouvelle donne, où non seulement on prêche la paix, mais on vient consolider la paix par des opportunités que les communautés ne pouvaient pas s'offrir.
Merci Steve Senguida.
Je vous en prie.
C'était le coordonnateur provincial du programme Star RDC, invité de ce journal. Avec lui, nous avons parlé des résultats enregistrés entre 2024 et 2025, de l'avancement des projets en 2026, mais aussi de l'impact concret de ce réalisation sur les communautés, notamment en matière d'emploi et de réhabilitation des infrastructures. C'est la fin de ce journal de 18h sur Radio Okapi. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast à tout moment sur www.radiookapi.net. L'information continue également en temps réel sur nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Présentation Gisèle Cage, supervision rédactionnelle Alain Hirong, mise en onde Alain Goy, coordination Élisée Chikota, Radio Okapi, la radio de la paix, fiable, proche de vous, partout. Très bonne soirée à toutes et à tous.